Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panet du Ciboulot, coproduite par Radio Graphite, graphite.net et animée par l'équipe des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com.
La publicité ne s'est pas trompée sur cet aspect qu'elle souligne à propos des maîtresses. De ce slogan savoureux, il nourrit ses désirs surnaturels de jeunesse et de beauté en faisant d'un collège pour jeunes filles une chambre des horreurs.
Au sommaire aujourd'hui de cette deuxième émission consacrée à l'intégrale augmentée de la revue Midi Minuit Fantastique, le volume 4 qui vient de paraître chez Rouge Profond, nous allons retrouver Jean-Claude Romer. On va réécouter en fait Jean-Claude Romer qui avait accordé un entretien à Denis Chollet pour notre émission il y a maintenant plusieurs années. Nous avons décidé en hommage à Jean-Claude Romer qui nous a quittés il y a peu, et aussi en lien avec cette intégrale signée Nicolas Stenzi qui est paru chez Rouge Profond, de vous rediffuser cet échange aujourd'hui dans cette émission, donc un peu particulière, qui rend hommage à cet homme très important dans l'histoire du cinéma français, de la cinéphilie française. La semaine prochaine, vous retrouverez Nicolas Stenzi pour la suite et la fin de notre entretien fleuve sur cette intégrale de Midi Minuit Fantastique, le volume 4.
Still over there, and then a footprint leading up to here.
Vous écoutez Jean-Claude Romer, cofondateur de Midi Minuit Fantastique, au micro de Culture Prohibée.
And then nothing.
Alors, moi, avant tout, je voudrais vous dire deux choses. La première, c'est que j'ai toujours cru aux fées. Je m'explique, c'est un sigle, c'est une image. Aux fées, F-H-E, ou fantastique à l'humour et à l'érotisme. Pour moi, c'était les trois mamelles de la transe, si on peut dire. Donc, c'est ce qui guidait mon intérêt dans la recherche des livres, des objets, au début de ces années 50, puisque j'ai connu le Minotaure à cette époque-là. Et tout simplement parce que je faisais de vagues études médicales et que la faculté de médecine se trouvait rue des Saints-Pères, qui elle-même est très proche de la rue des Beaux-Arts, où se trouvait le Minotaure. Et la deuxième chose, c'est que j'ai toujours pensé à cette histoire que vous devez connaître, qui est un classique de Jean Rey ou de H.G. Wells, l'histoire de ce personnage qui habite dans une ville et puis qui un jour se promène dans la périphérie et tombe par hasard sur une petite boutique où il y a tout ce qu'il avait envie de trouver. Il y a des livres rares, il y a des objets. Alors il est émerveillé, il n'est jamais venu dans ce quartier. Il note bien l'endroit, mais malheureusement, il n'a pas d'argent, il n'a pas son portefeuille sur lui. Et il se promet de revenir le lendemain pour acheter pratiquement tout ce qu'il a vu. Et le lendemain, il revient et malheureusement, la boutique a disparu. Il se renseigne auprès des voisins, on dit non, monsieur, il n'y a jamais eu une boutique. Et c'est pour ça que je fais le lien entre les deux. Moi-même, je me sentais tout à fait dans la peau de ce personnage, mais avec la chance inouïe de retrouver la boutique.
Oui, grâce à Dieu, la boutique n'avait pas disparu.
Voilà. Pour moi, c'était une boutique magique. Et la boutique a été au centre, j'allais dire, de ma vie, puisque c'est là que tout a commencé pour moi. Mes rencontres, les personnages, comme j'en ai... voilà. Pardon.
Et ça, donc, en fait, vous vous souvenez de la date, c'était pas...
Non, parce que c'est très flou, c'est sûrement... La faculté de médecine s'est ouverte autour de 53-54, et moi, j'ai dû débuter la deuxième année, donc c'était autour de 53-54. Et à l'époque, je venais d'avoir un scooter, une Vespa, et je pouvais sillonner Paris. Mais au départ, j'y suis venu comme ça, en curieux, en passant rapidement. Il a fallu un certain temps pour que je devienne plus proche de Roger et de Claude.
Claude André était déjà là.
Claude André était là.
Parce qu'il est venu en 54-55.
Mais je n'ai pas un souvenir précis des gens qui étaient là au tout début. Moi, c'était surtout ce qu'il y avait en vitrine, ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc tout ce qui relevait du fantastique, de l'érotisme. Et de l'humour m'intéressait beaucoup et je trouvais ma pâture.
Vous cherchiez déjà des ouvrages précisément avant de connaître la librairie Le Minotaure. Vous aviez déjà le déclic du collectionneur.
Oui, bien sûr.
Du chercheur indépendant.
Absolument, absolument, parce que au point de vue bande dessinée, il y avait une revue précieuse qui s'appelait à l'époque Fiction et qui était l'émanation de Mystère Magazine. C'était un certain Alain Dorémieux, que je n'ai pas revu depuis des années, qui était le responsable de cette revue. Et j'avais été un des premiers à mettre une petite annonce demandant des bandes dessinées de l'âge d'or, c'est-à-dire d'avant la guerre de 40, de Flash Gordon, en passant par Pim Pam Poum ou Mandrake le magicien. Et c'était un peu une bouteille à la mer. Et je crois d'ailleurs que le Minotaure faisait passer des annonces sur la boutique dans Fiction et dans Mystère Magazine, comme dans Positif aussi, dont j'étais un des lecteurs. Donc tout faisait pour que je me retrouve devant cette boutique. Et à la suite, vous voyez que tout se tient, à la suite de cette petite annonce, j'ai reçu un coup de téléphone de Francis Lacassin, me donnant rendez-vous, parce qu'il avait l'intention de créer le club de la bande dessinée. Donc c'était avant 62, c'était en 60-61.
Oui, c'est ça.
Nous étions en train de faire le premier numéro de Midi Minuit Fantastique. Donc tout ça est...
Mais avant que vous fassiez connaissance avec Boulet, soit vers 58-59, oui. Donc avant que vous mettiez la main à ce numéro de bizarre Boris Karloff, Todd Browning, à la recherche quand même d'une bande de périodiques, de photos.
Là, absolument.
Vous fréquentiez déjà le Minotaure.
Ah, mais bien sûr.
56, 57, 58.
Ah oui, mais je le fréquentais depuis 54 même. Mais moins assidûment, en
moins
passant.
Assidûment.
Voilà. Parce que je n'avais pas une chose particulière. Alors là, il s'est passé la chose suivante à propos du numéro que vous connaissez, numéro de bizarre. C'est que je venais de voir à la Cinémathèque rue d'Ulm une copie d'un film très rare que personne n'avait encore vu, n'avait encore beaucoup vu, c'était Fricks de Todd Browning. Et j'avais été immédiatement absolument fasciné par ce film dont ne parlait aucune histoire du cinéma pratiquement. Et je me suis dit, je vais essayer de trouver de la documentation, je vais essayer de rassembler des photos, ce qui à l'époque était invraisemblable puisqu'il n'y avait pratiquement rien. Et je me souviens que je venais à la librairie du Minotaure pour feuilleter des magazines, voir des bouquins, des dictionnaires du cinéma italien comme celui-là. Et avec bienveillance, Roger ou Claude me laissaient prendre des notes, etc., comme j'aurais pu faire en bibliothèque. À l'époque, je fréquentais aussi assidûment la bibliothèque de l'IDEC qui se trouvait avenue des Champs-Élysées. Et j'étais très lié avec mademoiselle Vérel, qui était la directrice la Cinémathèque, qui me laissait farfouiller dans la documentation. Mais moi, je cherchais un petit peu partout. Donc j'avais réuni une documentation, j'avais écrit un petit texte, j'avais traduit des interviews que j'avais trouvées dans les magazines des années 20 aux États-Unis, ce qui me faisait un petit dossier. Et j'en avais parlé à Claude et à Roger Cornaille, qui m'avait dit... Ah, ben ça c'est intéressant ce que vous faites là. Il faudrait que j'en parle à Michel Laclos, parce que Michel Laclos est le responsable de la revue Bizarre. Alors je dis, bah oui, moi je ne connais pas Michel Laclos, mais. Et un jour, Michel Laclos était présent dans la librairie. Je sais qu'avant il était vendeur, je crois.
Oui, il a été vendeur et assistant très tôt, vers 52.
Moi je ne l'ai pas connu à ce moment-là.
51-52.
Et Michel Laclos m'a dit tout naturellement, ah, mais ça m'intéresse, venez me voir. Il travaille dans une revue de télévision, là.
Télémagazine
qui se trouvait rue Saint-Marc.
Je sais pas où ça se trouvait, mais Télémagazine, c'est
du côté de la rue de Richelieu.
Auquel Boulet a d'ailleurs contribué partiellement avec un article sur Vince Taylor.
Donc tout se recoupe. Je suis allé donc voir Michel Laclos à plusieurs reprises, et puis il m'a dit, mais ça m'intéresse beaucoup. Il s'agissait d'un numéro spécial sur Todd Browning. Bon. Revenez me voir, ça m'intéresse beaucoup. Et il me dit, on va faire ça, ça va paraître dans quelques mois. Et c'est à ce moment-là, après, où, au Minotaure, j'ai rencontré un personnage volubile habillé en noir qui parlait assez fort et qui prenait à témoin tous les clients. Bon, Cornaille m'a présenté à Boulet. Et Boulet m'a dit, qu'est-ce que vous faites ? Alors, je lui ai dit, je travaille sur un... Ah, il me dit, mais ça m'intéresse. Et c'est lui qui s'est greffé sur le projet. Parce que Michel Laclos m'a dit, oh, Boulet, c'est un exhibitionniste, ce qu'il raconte est sujet à caution, je vois que vous êtes sérieux, vous êtes un historien. Et...
C'est vrai que ça faisait des années.
Et c'est moi.
Ça faisait des années que Boulet essayait quand même de faire des incursions et prendre d'assaut la forteresse Bizarre.
Mais maintenant, je
confirme.
Je peux le dire. Ouais. C'est moi qui ai dit. Michel Laclos m'a dit, oh, c'est peut-être pas indispensable de prendre Boulet, tout ça. Et c'est moi qui ai insisté pour garder Boulet. Donc, on s'est bien réparti le travail. Ouais. Lui, il a fait un petit peu le travail de d'aboyeur, là, de présentateur.
Vociférateur sur le fantastique, comme je dis.
Il
a vociféré.
Il faisait la parade, comme aux fêtes foraines, il y a celui qui fait la parade, là, le bonimenteur.
Je voudrais rouvrir une autre parenthèse, parce que si, en effet, il y avait peu de choses, il y avait quand même des gens comme Brunius ou Paul Gilson, qui avaient déjà effleuré, déjà sur Flex, qui en avait parlé.
Mais quelques lignes. Et en tant qu'extérieurement, sans se pencher sur la personnalité du réalisateur.
Ils avaient aimé le film.
Ils avaient aimé les surréalistes, tout ça.
Ils en avaient parlé.
Mais, à ma connaissance, Sadoul, qui était le pape du cinéma, ignorait ça. De toute façon, c'était un film américain, donc
c'était péché.
Mais je faisais ça sans beaucoup d'arrière-pensée au début. Et puis quand Laclos m'a donné le feu vert, à ce moment-là, et Boulet m'est apparu comme quelqu'un qui avait d'ailleurs des collections de photos, ou qui connaissait Romy, qui avait des collections de frics, de choses comme ça, disponibles. Et puis voilà comment ça a commencé. Là-dessus, je me retrouve chez Boulet, qui me dit, venez chez moi, on va faire une encyclopédie du cinéma fantastique. On va prendre tous les films fantastiques par ordre alphabétique. Et c'est l'histoire de la boîte à chaussures où on mettait des petites fiches. J'allais à la bibliothèque de l'IDEC, je lui ai ramené une moisson de documentation, parce que lui avait des photos qui n'étaient pas légendées, qui n'étaient pas datées. Il avait des extraits de presse qui n'étaient absolument pas indiqués. Il n'y avait absolument rien sur ces extraits de presse. C'était des coupures de presse sans rien, donc difficilement utilisables.
Revenons sur Roger la personnalité de Roger Cornaille et sur les ambiances de la librairie Le Minotaure, la littérature, les revues rares, le collège de pataphysie, les choses comme ça.
C'était une ambiance. Il était affable, ouvert avec le client, mais c'était un petit peu le côté, entre gens qui connaissaient le sujet, quoi, qui parlaient d'un air entendu de certaines choses.
En fait, vous avez tout de suite compris qu'il s'agissait quand même de clubs juxtaposés à d'autres clubs.
Oui,
ah, c'est ça, une constellation
de clubs. Donc, c'était des amateurs éclairés qui fréquentaient cet endroit-là. Ce n'était pas simplement des gens qui venaient acheter un livre, des gens qu'on retrouvait. Et c'est comme ça que j'ai pris l'habitude de venir régulièrement. À la fin, c'est quasiment devenu mon bureau, puisque je fixais un rendez-vous le samedi. Ouais. C'était tous les samedis à partir de 10h jusqu'à midi ou 1h. Et les gens qui voulaient me voir, que ce soit pour telle ou telle chose sur le cinéma ou bien...
ou la bande dessinée.
Ils venaient me rencontrer là-bas. Donc, tous les gens qui sont passés là-bas le samedi, Rabourdin vous en a peut-être parlé, parce que moi c'était le samedi. Et surtout Patrick Brion.
Patrick Brion, mais je ne l'ai pas encore.
Que j'ai côtoyé, avec qui j'ai fait des recherches, qui était vraiment un ami très très proche.
En fait, vous avez fait vos armes au Minotaure quand même.
Ah, mais tout a commencé au Minotaure. Tout commence par la librairie du Minotaure, le Minotaure. Moi, je situe ça à partir de 1953-1954. Et ce qui a donné lieu à la rencontre, par exemple, avec Jean Boulet, ce qui a donné lieu également à la rencontre avec les gens de la bande dessinée, puisqu'il y avait Francis Lacassin qui fréquentait aussi assidûment le Minotaure, qui a donné lieu à la fondation du CELEG. Ensuite, c'est parce que je suis, parallèlement, le numéro de Bizarre grâce à Michel Laclos.
Oui, qui met 3 ans à voir le jour quand même.
Parce qu'il y avait toujours un numéro qui passait avant.
Et aussi, il faut dire que Laclos voulait un peu vérifier qu'il n'y ait pas trop de scories, de vociférations surabondantes.
Ah, bah oui, moi j'avais des rendez-vous avec lui où il me disait « attention, attention ». Et j'ai souvent été obligé de défendre Boulet. En disant, mais comptez sur moi pour que les choses soient bien, bien sérieuses, mais Boulet va mettre le côté un petit peu comme ça, poétique.
Peut-être que vous aviez besoin de temps pour établir un certain nombre de fiches aussi. À l'époque, c'était quand même pas si facile, non
J'avais des correspondants aux États-Unis, je suis allé en Belgique, j'ai retrouvé des choses.
Oui, mais ça prenait du temps, c'était pas aussi facile que
non, mais ça aurait pu durer 15 ans hein, aussi.
Ouais.
C'est sans fin. Là, je continue encore à accumuler des documents sur Todd Browning. Donc, il y avait ça. Gifouif, alors, vous voyez...
Ouais, Gifouif par fiction, par les annonces...
Par les annonces de fiction et les gens que je rencontrais là. Donc, il y avait Jacques Champreux.
Jacques Champreux, oui.
Hein, donc, je crois qu'il est question aussi là. Donc, je deviens rédacteur en chef de Gifouif. Donc, je pense que vous connaissez la collection.
Oui, je connais la collection. Je n'ai pas la collection complète, mais
il y a une affiche d'une des couvertures.
Ah oui.
C'est vers la fin, ça. Donc, en tant que rédacteur en chef, il y a un anniversaire de Mickey. Et quelqu'un dit que ce serait bien d'avoir une interview avec Pierre Tchernia, qui à l'époque était l'ami public numéro 1. Je dis ok, ben moi je m'en occupe, je vais aller l'interviewer. Et je rencontre Pierre Tchernia qui était au Cirque d'hiver en train d'enregistrer l'émission La Piste aux Étoiles. On était, ça devait être autour de 65 par là.
Ouais.
On discute, il me dit, ah ben j'ai fui la bande dessinée, moi ça m'intéresse beaucoup, Mandrake, le fantôme du Bengale, et on discute.
Mais sa jeunesse, sa jeunesse à lui remonter, forcément.
Voilà, on parle cinéma, voilà. L'interview, ça passe, le petit texte qu'il nous donne passe dans le Gifouif, et puis il met mon nom dans sa poche et son mouchoir par-dessus. Et quelques mois après, je reçois un coup de téléphone de Pierre Tchernia qui me dit, le CNC m'a demandé de faire une émission à la télévision, pour faire la publicité du cinéma à la télévision. La télévision a pris beaucoup de spectateurs au cinéma, c'est le moins qu'on puisse faire, c'est de faire une émission qui incite les téléspectateurs à aller au cinéma. Donc, moi, je vais présenter cette émission. Jacques Roulant, qui est un spécialiste des jeux, va fabriquer des jeux, mais on a besoin de quelqu'un qui rédige des questionnaires pour des candidats, parce qu'il y aura des candidats, et quelqu'un qui choisisse les extraits des films, donc qui connaissent un petit peu le cinéma, ancien et récent. Est-ce que ça vous intéresse? Alors, qu'est-ce que j'ai répondu? J'ai répondu oui, si j'avais répondu non, tout ça serait arrêté là. Il me dit, mais vous savez, la télévision, c'est aléatoire, ça peut durer 6 mois, 1 an, faut pas rêver, ça a duré 22 ans. Donc, l'enchaînement, Monsieur Cinéma, À partir de Monsieur Cinéma, en 76, Marc Combier, qui était éditeur à Mâcon, est venu trouver Pierre Tchernia et Jacques Roulant. Il leur a dit, moi j'ai l'intention, ce qui n'existait pas encore, de faire une collection qui s'appellera Les Fiches de Monsieur Cinéma. Êtes-vous d'accord? Est-ce que Antenne 2, si Antenne 2 est d'accord, on le fait. Et ça a commencé en 76 et ça continue toujours. Et maintenant, c'est sur Internet. Et je suis devenu le responsable rédacteur en chef des fiches de Monsieur Cinéma. Donc, vous voyez, tout ça, la continuité. Parce que j'étais à Monsieur Cinéma, j'ai eu des demandes pour faire partie du comité de sélection à la création du Festival d'Avoriaz. Ce qui a su, et j'ai pas mis tout le reste, mais il y a eu Cognac également. Puis après, il y a eu le festival de Deauville, bon, etc. Et les fiches de Monsieur Cinéma ont donné lieu, à, grâce à l'iconographie, à une série de 14 volumes publiés chez Casterman, qui sont là, qui s'appelle Le Tour du Monde. Vous verrez l'affiche.
Ils sont bien diffusés, et en médiathèque, et un peu partout, et
j'espère
qu'on peut consulter facilement.
Vous croyez, parce que Casterman ne s'est pas donné beaucoup de mal pour faire de la pub. Hein.
Bah, en tout cas, dans les médiathèques de province, on les consulte facilement.
Bon, oui, après, puis je trouve que ce n'était pas une mauvaise idée. Et on aurait pu faire plusieurs tomes de chaque thème, mais ça s'est arrêté à 14 volumes.
Ça venait après l'idée qui préexistait de fiches aussi, si je me souviens bien, chez Casterman, qui était aussi sous forme de...
Oui, alors j'avais des dossiers, j'avais travaillé dessus, j'avais fait sur la Hammer Film et sur Todd Browning aussi, sur les cinéastes.
Sur les cinéastes, vous vous souvenez.
Oui, oui, mais c'était une diffusion plutôt confidentielle.
Confidentielle, mais de qualité.
Ah ben oui, ben, c'est vous qui le dites. Hein. Bon, alors ça c'est un exemple pour vous montrer le fait que... Alors,
et
pour
aussi,
en revenir
aussi, relation aussi à un réalisateur. Donc,
oui, alors je vais reprendre là. Ayant rencontré Jean Boulet, je travaillais un jour chez Jean Boulet et j'ai vu arriver deux garçons qui étaient Alain Lebris et Michel Caen, qui étaient envoyés par Eric Losfeld parce qu'ils avaient été le trouver en lui disant on voudrait faire un livre sur Terence Fisher. Et
un livre ou une revue?
Un livre.
D'abord, c'était un livre.
Un livre. Et Eric Losfeld, qui sentait un peu les choses, a dit, mais un livre, on ne va pas faire ça ponctuellement, une fois, un livre. Bon, on va faire une revue, qui sera, dont le numéro 1 sera consacré à Terence Fisher. Ouais. Si vous avez d'autres idées, ah ben oui, il y aura King Kong, il y aura... Et pour ce, je ne dirais pas pour se prémunir, mais enfin pour... pour avoir des garanties, il a dit à ces deux garçons, allez donc voir Jean Boulet, qui en ce moment travaille également à une histoire du fantastique et fait un numéro de Bizarre avec Jean-Claude Romère. Et j'ai vu débarquer les deux garçons un jour chez Jean Boulet, qui leur a fait la visite de ses collections avec tout... qui les a éblouis, quoi.
Oui, ben, nécessairement, un peu d'artifice de la rue...
Il a agité sa gourmette.
C'était la rue Bobillot, là.
Oui, moi j'ai connu rue Bobillot, il l'avait emménagé depuis quelques mois seulement.
C'était presque à cheval aussi, ça avait bien aménagé.
Et il y avait encore dans la cave, en vrac, des tas de cartes postales, de livres, de choses, même le sol. Donc, voilà Midi Minuit qui commence à se fabriquer, donc chez Jean Boulet, dans son grenier. Et le numéro 1... paraît en avril 62.
C'est moins d'une décennie.
En avril 62, donc vous aviez 62 bandes dessinées, 62 ici, et 62 bizarres. Donc voilà mes trois choses à moi, qui étaient importantes pour moi, et tout ça simultanément.
Et c'est avec une espèce d'accélération ou de rupture, si on peut dire, à partir de 66, qui est aussi une année charnière où le format de Midi Minuit change, l'idée, la conception change, Philippe Aki est en train de prendre un peu d'ampleur,
oui, mais...
on voit des choses comme Pariscope qui sont en train de naître.
Non, mais surtout, après la disparition de Jean Boulet de l'ours, parce que, comme il disait, sans mes fabuleuses collections, vous ne ferez jamais rien.
Mais en fait, c'était faux.
Alors bon, donc le Midi Minuit a continué, mais en même temps, il y a eu la programmation du Fusil de l'Étoile, qui était très important pour Michel Caen et moi, puisque nous avions été demandés par Madame Wasserman, qui était là, une des responsables du Studio de l'Étoile, de faire pour la première fois une programmation de films fantastiques. Faut bien se dire qu'à l'époque, le cinéma fantastique n'était absolument pas diffusé. Il n'y avait pas de salle. C'était un cinéma qui était limité au Midi Minuit, au Colorado, et le Styx n'existait pas encore.
Le Brady.
Le Brady, oui, mais... Ouais. Ouais, mais enfin, là, il s'agissait de prendre des films inédits, de faire des rééditions exclusives, ce que nous avons fait de 68 à 71. Donc en même temps, j'étais avec Monsieur Cinéma, j'étais là, et je reviens un petit peu en arrière, Midi Minuit Fantastique, c'est là où nous avons fait paraître le premier interview avec Jean-Pierre Mocky.
Oui.
Il n'avait jamais eu d'interview, il y a eu une quinzaine de pages dans un numéro, et j'ai sympathisé avec Jean-Pierre, et c'est lui qui m'a dit « mais vous voulez pas écrire des scénarios avec moi ?» Alors j'ai longtemps refusé, oui, le premier c'était en 82, tout en restant très ami avec lui. Et finalement j'ai accepté en 82 et en 87 pour « Litan et le Miraculé ». D'ailleurs, il faudrait bien que j'en fasse un troisième en ce moment.
Et donc, vous gardez des relations
avec Mocky ? Ah oui, je dîne une fois par semaine avec lui. Là, j'ai encore dîné dimanche avec lui.
Mais comment on le voit beaucoup à la télé en ce moment ?
Ah oui,
c'est un personnage médiatique. Autant que José Bové sur un terrain à côté.
Alors, justement, je vous ai fait ça, vous amusera, parce que j'ai fait ça. C'est la liste de mes apparitions à l'écran. Et j'ai tourné une douzaine de films avec Mocky et je viens de tourner dans le Glandeur.
Ouais, je t'aime de Alain René, un invité à la soirée. Oui, d'accord, oui, parce qu'il y a des. Effectivement. Ça, c'est des choses de club, hein, si on peut. Le Viager, oui. Des choses que je revois bien.
Ouais. Voilà, alors.
Céline et Julie.
Si ça peut vous amuser, je vous laisse ça.
Ah, oui, oui, ça, c'est pour moi. C'est...
Voilà. Alors, le dernier, le Glandeur, qui n'est pas marqué là-dessus, mais qu'il faudra indiquer. Donc, vous voyez, la filiation avec le Minotaure, hein, c'est comme un escalier. À chaque fois, il y a une marche qui mène à une autre marche, puis une autre marche.
J'ai envie de dire que finalement, au moment du Studio de l'Étoile, mais peut-être avant aussi, parce que Midi Minuit, c'est quand même, on est déjà dans le pouvoir exécutif. Mais j'ai presque, avec le Studio de l'Étoile, le fait que vous passiez scénariste pour Jean-Pierre Mocky et le travail qui va être régulier et chronique pour... Monsieur Cinémas, on est dans la partie exécutive finalement du Minotaure, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que tout l'héritage, toute la formation qu'on reçoit au Minotaure, elle se retrouve là, d'une certaine façon, comme étant, comme si on était lâché dans la nature
bien
et
sûr,
en
fait. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, vous qui survolez. Ouais. Oui, oui, absolument.
Une façon d'être dans la formation,
oui.
Dans l'épreuve de force, parce qu'il y a un moment où on est aussi dans l'épreuve, dans le creux de la. Et après dans l'exécutif.
Mais attendez, il ne s'agit pas non plus d'abandonner le Minotaure, parce que jamais j'étais aussi présent au Minotaure que dans ces années-là. C'est pendant toutes ces années-là que nous avions ces fameux rendez-vous. Les matinées presque pendant une heure ou deux heures au studio au Minotaure qui se terminait après par un déjeuner dans une brasserie de Saint-Germain-des-Prés où on avait Léo Mallet, on avait Lacassin, il y avait Tercinet, je ne sais pas si vous le connaissiez, Tercinet.
Je connais deux noms.
Alain Tercinet, enfin, il y avait des fidèles qui étaient là, plus d'autres qui s'occupaient de bande dessinée. Enfin, tout ça a continué.
Qui était là, Belli ?
Non, Belli beaucoup moins. Belli faisait que passer. Il passait, mais il n'était pas. Non.
Qui vous revoyait comme fidèle, en fait, de cette liturgie ?
Il y avait Patrick Brion. Bah, surtout, moi, c'était le samedi. Ouais. Alors, peut-être qu'il y en a d'autres qui venaient un autre jour, parce qu'il me disait souvent oh, bah oui, il y a Alain René qui est passé hier. Donc, en passant le samedi, lui ne passait jamais le samedi, pratiquement. Mais j'en rencontrais d'autres. Je rencontrais Jean-Christophe Averty, par exemple. J'ai croisé Henri Janson, j'ai croisé Monica Vitti. Je pense que ça venait aussi du fait qu'il y avait l'hôtel.
Ouais.
On appelait l'hôtel. Ouais. Hein, c'était un hôtel qui s'appelait l'hôtel où Oscar Wilde était
Oscar
mort.
Wilde,
au bout de la rue. Voilà. Et il y avait beaucoup d'étrangers qui descendaient là et qui automatiquement passaient devant la boutique et venaient jeter un regard. C'est pour ça que Monica Vitti a dû venir.
Où alliez-vous déjeuner en quittant le Minotaure?
Je ne me souviens plus du nom de cette brasserie, elle a disparu. C'est boulevard Saint-Germain, mais Lacassin vous le dira peut-être, lui.
Et la Palette, c'était des incursions
Non, la Palette, on n'a jamais vraiment fréquenté. Non. J'y suis allé quelques fois, effectivement, oui. Bon, enfin, c'était pas là. Non, on allait dans une brasserie qui était ni pire ni meilleure qu'une autre, simplement elle était proche.
En tout cas, elle a disparu.
Elle a disparu, c'est remplacé par un Léon de Bruxelles. Mais comment s'appelait-elle, le nom m'échappe. C'était au carrefour...
Mais c'est Odéon.
Odéon, où il y avait Mabillon, là. Carrefour Mabillon, c'était Léon peut-être le Mabillon.
Je ne sais pas, mais en tout cas, oui, c'est bien Léon de Bruxelles.
Oui, bah, c'était à cet emplacement-là. Ouais. Et c'est là où venait Léo Mallet.
C'est là où vous venez au Malais. Donc,
on avait réussi à dégeler un peu. Avant qu'il dise qu'il me téléphone toutes les semaines en me disant je vais me suicider, je vais me jeter par la fenêtre. Je lui disais Léo, allez-y. Toute mon histoire là, le montre et même le prouve. Je n'ai cherché qu'à une chose, c'est à faire connaître et aimer ce que je défendais à l'époque, que ce soit la bande dessinée, le fantastique ou l'humour, ou les trois en même temps. Hein, les fameuses fées, là.
Je voudrais qu'on revienne aussi sur d'autres personnalités, et là on va reprendre un petit peu le cours du temps. Des gens comme Brutus, les gens que vous avez pu croiser ou non à la Brutus.
Je les connaissais, parce que je lisais les livres,
ouais, mais, pas,
mais je ne les ai jamais rencontrés. Moi.
J'en sens, oui.
Je l'ai croisé, mais je ne lui ai pas parlé, mais il était là. Il était déjà assez âgé quand même. Mais je l'ai vu à plusieurs reprises.
Et Laclos, quand il a publié son Fantastique au cinéma, pour lequel d'ailleurs Boulet semble avoir contribué, au moins pour l'iconographie, puisqu'il
il y avait Romy aussi.
Et il avait des collections.
Roger Cornaille, ouais. Et puis aussi lui-même, Roger. Avaient des collections importantes.
Hein. En fait, ils étaient assez peu de collectionneurs sur la place parisienne, et c'était à ce moment-là qu'on venait voir aussi Boulet, non plus comme peintre ou dessinateur, ce qu'il avait été dans l'immédiate après-guerre, mais aussi comme collectionneur.
Collectionneur et dépositaire de choses pouvant être utilisées, ouais. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas toutes ces histoires dramatiques. Là, on publie une demi-photo minuscule, on paye un million de droits, ou la moitié d'une bande dessinée.
Heureuse époque.
Et lui travaillait pour des journaux. Jean Boulet travaillait comme auteur pour des journaux médicaux. Il y avait Esculape ou La Vie Médicale, et pour lequel il faisait des petits textes qui à l'époque étaient assez peu courants, hein, sur la bande dessinée ou le fantastique, qu'il illustrait soit par des photos de films, soit par des bandes. Et je lui ai souvent donné des bandes dessinées aussi américaines. Je viens pour le Poulpe, là, Gigantesque, ou des trucs passés très bien. Maintenant, on n'oserait plus faire des choses pareilles.
Maintenant, il faut demander les droits. Qui est l'ayant droit ?
Dès que quelqu'un se dit, à l'époque, les gens disaient, oh, ben, qui ça intéresse ? Ça restait limité, donc c'était très possible.
Profane, sacrilege, what are you playing in this church ? Have you no respect ? Do you feel no reverence ? And I feel sorry for you and your lack of soul. This organ, the music of this church, these things have meaning and significance to us. I assume they did to you. But without this awareness, I'm afraid you cannot be our organist. In conscience, I must ask you to resign.
Oui, moi je fréquentais toutes les librairies, je faisais le tour de tout Paris.
Jean-Claude Romain.
J'avais mon scooter, je me baladais partout, donc je connaissais bien toutes les librairies. Et la librairie Médicis, c'était une librairie traditionnelle. On trouvait donc tous les livres de Sadoul, on trouvait Brasillac, toutes les histoires du cinéma. Bon. Mais classique. Mais si vous vouliez trouver des choses un peu différentes, surréalistes, pataphysiques, il fallait aller au Minotaure. Et le Minotaure lui-même se donnait du mal pour. Il était dépositaire de choses qu'on ne trouvait pas dans d'autres librairies. Peu à peu, d'autres librairies sont venues et ont fait un peu le même.
Non, mais ça, c'est beaucoup plus tard, c'est vers le début des années 80, milieu des années 80, les feux de la rampe.
Vous parlez des années 50.
Oui, là, vous me parlez des années 50, mais. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans les années.
Il y avait la petite librairie rue de Seine aussi, dirigée par Valérie Schmitt, qui s'appelait, je ne sais plus comment, la Mandragore, non ?
Non, la Balance.
La Balance, voilà. Science-fiction.
Elle a fait la Balance de 54 à 57, voilà. Rue des Beaux-Arts. Vous avez dû peut-être. Sûrement Colin Sternberg, voilà. Peut-être à ce moment-là.
Ah, bah, je croisais très bien Sternberg, oui.
Topor en culotte courte, Curval,
André Ruelland.
Et puis ensuite, elle a fermé tout simplement parce que Jean Aubier est mort.
Elle était plus littéraire que cinéma.
Oui, elle était littéraire.
Donc moi, j'étais davantage cinéma. Hein, donc c'était le cinéma plutôt que la littérature.
Mais je ne sais pas. Essayons d'évoquer. Vous revoyez un film. Vous sortez d'une séance de film, mettons. Le pigeon, il sort pas, soit avec Gassman, puis bon, qui vient de nous quitter récemment, et aller au Minotaure. Vous revoyez une vraie, franchement, une anecdote comme ça des années 60 qui serait liée au Minotaure. Il y en a une ou deux qui vous reviennent en tête.
On parlait.
C'est plutôt l'ambiance générale.
L'ambiance générale, et c'est plutôt rétrospectif. On n'y allait pas pour parler de l'actualité. l'actualité, bon, c'était à la portée de tout le monde. On y allait pour évoquer des choses. Non, je ne vois pas en train de, même avec Patrick Brion, on était en train d'évoquer des rééditions de films, des reprises, des choses comme ça. On n'était pas attaché tellement à l'actualité. Non, j'ai pas le souvenir de ça.
Pas d'une actualité liée au, à la librairie Le Minotaure,
non,
en tout cas.
Non, non.
Si ce n'est pour des raisons administratives, pour Gifouif, bien sûr, parce
ouais.
que bon, là, ils étaient dépositaires.
Oui, oui, oui.
Ouais,
c'est-à-dire qu'ils avaient mis Diminuit et Gifouif en même temps. Mais non, pour moi, alors pour moi, vraiment, Le Minotaure, c'est quelque chose qui était hors du temps. Hein, c'était le temps s'arrête. On peut être aussi bien en 1930 qu'en 1950, en 1920. On peut parler de tout sujet.
Vous avez l'impression que c'était lié quand même à la personnalité de Roger Cornaille, bien qu'il se soit défendu de...
Mais Roger Cornaille était toujours en retrait. Mmh. Moi, j'ai toujours le souvenir plutôt de Claude André. Hein. C'est Claude André qui était avec moi très libre, on parlait. Souvent, il me disait, tiens, il faut que j'aille téléphoner ou j'aille prendre un verre. Tu veux garder la librairie pendant 5 minutes? Et je restais là, et les gens venaient me demander un truc, quoi. Ça m'arrivait souvent, ça.
Mais Roger Cornaille est très en retrait.
Oui, puis si bien qu'à la fin, parce que je crois qu'il préférait aller au Racing, à la piscine du Racing, ou jouer au tennis.
Au tennis. Il était classé.
Oui, mais moi, c'est, alors moi, je lui parlais jamais de ça, parce que le sport, moi.
C'était pas important.
Je dois être ce que je suis devenu. Je n'en ai jamais fait. Oui. Le sport.
Enfin, lui, apparemment, il était quand même... il tenait à...
Oui, c'est drôle, hein, même, d'ailleurs, qu'il soit...
Ben Claude André aussi, d'ailleurs, hein, parce qu'il continue l'exercice de la culture physique. En
fait. Et c'était difficile de parler de l'actualité, parce qu'il ne suivait pas l'actualité. Mm. Vraiment, il ne suivait
oui,
pas l'actualité du cinéma.
Oui, il s'est laissé traverser par l'actualité. Mais
non, mais je n'ai pas le souvenir qu'il m'ait parlé de films qu'ils avaient vus dans la semaine, je n'avais pas le temps.
Les salles que vous fréquentiez plus assidûment à ce moment-là,
ben, il y en avait pratiquement
58,
pas.
59, 60.
Il y avait le midi-minuit.
Midi-minuit, et pour les exclusivités, et pour les films qui n'étaient pas des films fantastiques ou des films d'épouvante que vous aviez envie de voir
Ah ben alors, il y avait toutes les salles ordinaires, hein, Balzac, Eldersk à la Vivienne, Marignan, Marivaux, Colisée.
Pour vous, c'était égal, quoi. C'était
ah oui, parce que moi, je suivais le cinéma, pas seulement le cinéma.
Aller voir James Bond contre Dr No en 61, c'était égal, quoi. Une salle ou une autre, il n'y avait pas particulièrement de...
Mais moi, j'ai jamais été fétichiste d'une salle, moi. Parce qu'il m'étonne beaucoup maintenant, c'est que les gens, ils vous parlent davantage de la salle, du contenant que du contenu. Or, moi, ce que je voulais, c'était avoir un cinéma chez moi. Moi, je suis parfaitement heureux d'avoir un grand écran chez moi. Le côté convivial et tout ça imposé, c'était plutôt imposé qu'une contrainte, qu'une liberté. En tout cas, j'étais de la tradition, vous savez qu'on oppose Lumière et Méliès. Hein. Oui. Moi, j'étais pas du tout Lumière, j'étais Méliès.
Hein. Ah oui.
Vous savez qu'il y a d'un côté le spectacle.
C'est pas possible de vous poser la question.
Non. Et alors, ce que j'ai toujours regretté et par la suite, c'est les gens qui se disait amateur de cinéma et qui en fait n'avait qu'une idée, c'est supprimer tout ce qui faisait au cinéma l'intérêt du cinéma, c'est-à-dire le spectacle pour moi. Je ne sais pas si je vous le disais, mais ça me faisait penser au savant dont parlait Alphonse Allais, qui avait supprimé, qui avait découvert un procédé qui permettait d'ôter au caoutchouc l'élasticité qui le rendait impropre à tant d'usage. Alors, tous ces gens-là veulent retirer du cinéma le spectaculaire. Et alors, qu'est-ce qui reste? Il reste avec l'écran blanc.
Qui est hélas l'essence du...
Ben, ils n'ont qu'à faire autre chose. Ils n'ont qu'à faire de la peinture, de la sculpture, écrire des romans, si ça les gêne tellement que ce soit un spectacle.
On est aux lisières.
Ah, oui.
À la lisière du mode d'expression. Mais hélas,
ouais,
ça ne fonctionne pas.
Mais justement, fantastique, humour, érotisme, ça se rattache davantage au spectacle du cinéma dit fantastique.
Oui, mais alors ça veut dire que...
On montre les choses.
Au moment où vous aviez au temps fort, de ces réunions du samedi matin, de ces réunions hebdomadaires, puisqu'on parle de la lisière d'un certain cinéma, est-ce qu'il était question parfois de discussions autour de Jean-Marie Straub?
Oh, jamais.
Voilà.
Ah, jamais. Mais je crois même que notre ennemi, c'était Bresson, sa descendance, Bresson, les Téchinés, les Assayas et tous ces gens-là, qui moi je trouve ça mortellement ennuyeux. Moi je le dis, ça ne m'intéresse pas ça. Ce n'est pas un cinéma... qui me passionne.
Céline et Julie, vous avez revu depuis le... Parce que c'est pas nécessairement non plus...
Ah oui, mais c'est différent parce que Rivette faisait un cinéma, en tout cas, qui était un cinéma d'action. Oui. Il se passait des choses dans Céline et Julie.
Oui, c'est vrai. Moi, en l'ayant revu à la télé, mais il faudrait que je le revoie une troisième fois, et ça m'est arrivé...
C'est le domaine du rêve aussi.
Le domaine du rêve. Enfin, pression quand même... Guilain Cloquet pour Au hasard Balthazar, ça c'est quelque chose qui tient la route.
Oui, mais il y a des choses qui ne me touchent pas, moi.
Non plus, mais c'est vrai que c'est presque, photographiquement parlant, c'est presque un film fantastique.
Bah oui, mais
c'est ça que j'ai envie de dire, et la narration.
Mais je vais vous dire une chose, moi, pour les besoins de Monsieur Cinéma, j'étais obligé de tout voir, hein. Donc je voyais tout.
Non.
Moi je vois tout, et je continue à voir tout le cinéma. Il y a des gens qui se sont arrêtés, c'est pour ça que je dis que je ne suis pas cinéphile, je suis cinéphage. Le cinéphile, il a sa portion du cinéma, et point final, il n'en démord pas, c'est le cinéma américain, c'est le cinéma anglais, c'est le western, ou c'est tel genre. Et puis en dehors de ça, il ne voit rien, ou il s'est arrêté au cinéma avant la nouvelle vague. Moi, je continue, il y a des choses que j'aime et que je n'aime pas, je vous donne mon goût à moi, c'est tout. Et c'est pour ça que je me suis trouvé en plein accord avec quelqu'un comme Jean-Pierre Mocky.
Qu'est-ce que, actuellement, qui pourrait être dans l'héritage de, je dirais pas du goût de Jean-Claude Romer, mais du goût dans l'héritage direct de la librairie Illuminator, un film comme Blood Simple des frères Cohen, est-ce que c'est une chose qui paraît très...
Mais maintenant, ça s'est tellement diversifié, ouais. Il y a tellement de genres, de sous-genres, de...
Non mais par exemple, Blood Simple des frères Cohen,
oui.
Moi ça me paraîtrait.
Oui.
Moi en tant que client, je dirais.
Oui, ça, alors je dirais, on est encore plus proche de John Waters par exemple, des premiers films de John Waters.
Pas
qui
le
était à la fois. Oh non, je trouve qu'il baisse beaucoup.
Cecil B. Demented.
Oh oui, Cecil B. Demented, je trouvais ça. Même le précédent.
Insuffisant pour John Waters.
Oh oui, Pecker aussi, le précédent. Là, ça baisse. Non mais je parle des précédents. Enfin, c'est normal, hein, un auteur, et c'est difficile pour lui de se maintenir toujours au sommet. Hein.
Moi, je voudrais qu'on revient à Roger Corneille lui-même. L'œuvre secrète de Roger Corneille, c'est-à-dire l'œuvre qui est la moins spectaculaire et qui pourtant va taillante dans les trimestres à venir, c'est-à-dire les collages, la conscience cinématographique et la conscience narrative de Roger Corneille lui-même, parce qu'il existe une œuvre, ces collages qui sont remarquables.
Alors justement, en fait.
Ça vous en aviez,
écoutez,
vous avez découvert au fur et à mesure.
Vous parlez des collages, mais j'arrivais dans le magasin, il était là à son bureau, là, derrière la caisse, il écrivait, il était en train de faire des choses comme ça, et quand on arrivait, il rabattait ça, puis c'était terminé. Vaguement, j'ai entendu dire, mais Claude André faisait ça aussi.
Oui, il faisait à deux, c'était Bicéphale.
Hein, je crois qu'il faisait...
Il y a trois boîtes,
mais
il existe trois boîtes.
J'allais pas me pencher par-dessus son épaule pour voir ce qu'il faisait et pour lui dire, ben, qu'est-ce que c'est. On était discret, on n'en parlait pas.
Pour la petite histoire, Claude André est sur le point de faire cadeau l'ensemble des trois boîtes au musée de Lausanne de l'art brut. Donc c'est dire.
Non, mais il me donnait l'impression, enfin Roger ou Claude me donnait l'impression, tout en parlant, de griffonner comme on fait au téléphone, machinalement avec un crayon.
Alors, il griffonnait les comptes et les chiffres, c'est-à-dire ce que devait le client, mais en réalité les dessins sont du Pré de Ruyer.
Non mais parce que
je les ai construits. C'est pas possible.
Nous n'en avions absolument pas conscience.
Pas conscience.
Pas du tout.
Donc en fait le collage de qui a suggéré la couverture de Giffruy, qui est admirable d'ailleurs, un des derniers.
Oui, c'est lui. Je crois que non, ça s'est trouvé comme ça. Je sais plus qui a dit ça effectivement dans le format horizontal.
Format à l'italienne.
Ouais. Je sais plus.
Avec les emportés qui sont correspondants aux personnages principaux.
Oui, c'est vrai. Vous voyez, vous m'y faites penser là. C'est vrai.
Mais c'est pas vous qui avez suggéré ça, hein. Forcément, parce que vous ne le voyez pas, il caché.
Mais je ne me souviens plus comment ça s'est passé, ça fait un bout de temps déjà.
66, bien... 66, ça nous ramène loin. Ouais.
Il y a bien quelqu'un.
Pousse tout le monde.
Non, mais je crois qu'on a tous été emballés. Je crois qu'à l'époque, c'est peut-être Terciné qui était le maquettiste, et qui a dû dire, faudrait lui poser la question. Oh. Alors s'occuper d'érotisme et de bande dessinée à l'époque, c'est vraiment... chercher la difficulté.
Chercher à être lapidé.
Oh là, parce qu'autant on peut parler maintenant de film X ou parler de bande dessinée, hein, c'est bien vu. Maintenant, des gens de 40-50 ans, pour eux, il n'y a pas de problème d'aller acheter un album de bande dessinée.
Je viens de passer, pas plus tard qu'hier soir, dans l'émission Mauvais Genre. cruel. Donc, ah, genre, donc effectivement, où on parlait de boulet.
C'est pour ça qu'il est difficile
c'est
de choquer.
C'est bien curieux. Non, c'est très difficile de choquer.
Ah ouais. Bon, je crois qu'il serait très triste, ce boulet.
Breton lui-même, il n'était pas encore décédé, disait à Maxence, probablement vers 64, entre 67 et 66, puisqu'ils sont morts en 66, qu'il était devenu impossible de choquer. Et on était en 64-66. Ah, donc ça vaut, je vous redonne simplement les dates comme repères.
C'est-à-dire qu'on choque avec d'autres choses, d'autres moyens, peut-être. Il y a des choses qui ne choquaient pas avant, qui choquent maintenant, peut-être, je ne sais pas.
Oui, parfois il suffit de décaler.
Oui, oui, il y a un glissement. Ouais. Mais on faisait ça naturellement, en fait. Ce n'était pas pour le besoin de choquer ou de provoquer. On s'intéressait à des choses que nous aimions, certaines choses, et nous essayions de les faire connaître. Faire connaître la bande dessinée, faire connaître le fantastique, ben, c'était notre propos, hein. C'était dans le contrat, ça, hein, dans le cahier des charges. Pourquoi on a créé Gifouif, hein, c'était pour ça. Bon, ben, Midi Minuit, c'est pareil, le fantastique il n'existait pas. Maintenant, il est partout. Les majeures compagnies font des films fantastiques, ils gagnent des millions de dollars. Ce qui n'était pas le cas à l'époque. C'était autant d'emporte le vent à l'époque.
Oui, Massacre à la tronçonneuse a été fait avec un budget relativement cheap. Et bon, il a fallu attendre, je crois, une dizaine d'années pour que le réalisateur retrouve un peu de sous investis. Une chose que je voudrais savoir, Lee Falk est venu faire une signature en 66 au Minotaur.
Moi, je connaissais bien Lee Falk. C'était devenu presque un ami. Et je l'ai rencontré à plusieurs reprises. Lacassin le connaissait très bien et le pilotait dans Paris. Et Robert Floret aussi, qui était un ami de Lacassin. Oui, oui. Ah non, on a fait beaucoup de choses pour la bande dessinée.
Vous vous souvenez de cette signature au Minotaur de... Vous revoyez un petit peu
Oui, c'est possible.
La session, j'ai envie de dire, jazzistique. Ouais.
Non, on avait eu des déjeuners ou des dîners avec Lee Falk. C'était plus intime.
Et une interview faite par René peut-être
Bah, tout ça c'est dans Gifouif. Moi j'avais un beau comité de rédaction, hein, quand même. J'avais Alain René, il y avait le père de Patrick Brion, qui nous avait fait un article sur Félix Lechat. C'était quand même dangereux pour lui, pour sa réputation à l'époque, hein. Je me souviens encore avoir été trouver Raymond Queneau pour lui demander son parrainage. On avait des gens bien. Notre idée, c'était de trouver, pour dédouaner ce genre, que ce soit le fantastique, la bande dessinée, des gens reconnus intellectuellement et honorés et honorables. Ce qui laissait des gens un peu méditatifs en disant comment. Alors,
Fellini, Delphine Seyrig, Edgar Morin,
ouais, alors, si ces gens-là,
Fulcignoni.
Ah ouais, si ces gens-là quand même défendent. Y a-t-il un cinéma différent à défendre? Et il y a toujours, à toutes les époques, il y a toujours eu des films qui passaient inaperçus. Et les gens qui vous disent « Oh, le cinéma n'est plus ce qu'il était il y a 20 ans, il y a 30 ans », je dis « Mais il y a 20 ans, on disait la même chose. Il y a 20 ans, il y a 40 ans, les gens vous disaient « Oh là là, le cinéma n'est plus celui que j'aimais », tout ça. » En 1930, il y a des gens qui venaient vous dire « Pour moi, le cinéma, c'est l'art muet. À partir du moment où le cinéma se met à parler, je n'irai plus jamais au cinéma. »
Est-ce qu'actuellement, il y a des jeunes cinéphiles qui soient capables de défendre à la fois Le Baron Fantôme et un film de John Waters? Voilà, c'est ça.
Maintenant, on trouve des gens qui défendent n'importe quoi et le contraire. Non,
alors, sans que ce soit n'importe quoi, par amour, par cinéphilie,
oui, je crois,
par cinéphilie, qui est une maladie, qui est une vraie maladie, mais qui est une bonne maladie, j'ai envie de dire.
Oui, bien sûr.
Qu'est-ce que c'est que la cinéphilie? C'est une bonne maladie.
Oui, mais c'est une maladie élitiste. Moi, je ne suis pas cinéphile. Je suis cinéphage, je le répète.
La cinéphagie, il y a la cinéphilie.
Non, il y a des films que j'aime, mais moi, cinéphilie, c'est un mot que j'aime pas. Je ne suis pas cinéphile. Les cahiers du cinéma étaient cinéphiles. Parce que le cinéphile, c'est celui qui dit « Oh, ce film-là, j'irai sûrement pas le voir, d'ailleurs je ne l'aimerais pas. »
Non, mais alors on va revenir à quelqu'un qui a occupé la scène de ces années, fin des années 50-60, c'est Boulet. C'était « Je n'aime pas le Jeanne d'Arc de Dreyer, point. » Donc, en principe...
Je crache sur le Jeanne d'Arc de Vayer.
Je crache. Donc, en principe, quelqu'un qui a forcément 20 ans de moins que lui n'a pas à aller voir le Jeanne d'Arc de Vayer. On est bien d'accord. Restauré ou pas. Puisqu'on vient de le voir pas plus tard.
Écoutez, moi, je vois des films que je n'aime pas. Je ne sais pas parce que je suis masochiste, mais je veux m'informer.
Prenons le Dreyer. Prenons ça, par exemple, le Dracula, le Nosferatu ou Herzog.
Je reconnais le droit à tout le monde d'aimer ou de ne pas aimer tel film. J'aime ou je n'aime pas. Mais je ne dis pas ce film est ceci ou ce film est cela. Le film, il est ce qu'on en fait.
Quand vous avez été amené à faire des scénarios pour Mocky, qui est lui-même quand même quelqu'un qui est assez locomotive.
On a travaillé avec Mocky, on peut travailler avec n'importe qui. Voilà. Vous connaissez des anecdotes avec Mocky, hein.
Oui, mais enfin,
moteur.
Oui, mais Mocky,
j'étais là. Hein,
c'est un versant distinct de celui de René. Quoi.
Oui, mais c'est aussi du cinéma. Il y a certains films de René qui sont extraordinaires.
Il y en a d'autres qui le sont moins.
Mais moi, je ne défends pas la politique des auteurs. Pour moi, chaque film est indépendant. On a une opinion favorable sur un auteur ou un réalisateur, donc on est plus ouvert. Mais il y a des films de certains réalisateurs que j'aime et d'autres que je n'aime pas. C'est pour ça que je n'aimais pas les cahiers, la politique des auteurs, ça veut rien dire. D'admettre que tout ce que fait un tel est génial parce que c'est un tel.
Et à laquelle devait surenchérir positif et ainsi de suite, donc avec un ping-pong.
Non, je crois que c'était la liberté. On est tous très libres et chacun choisissait ses films.
Les goûts de... Est-ce qu'il vous revient des goûts... discuter avec vous de Roger Corneille, des goûts cinématographiques, puisqu'il avait une collection d'affiches de cinéma de 1890 à 1930 sur le mur.
Il n'allait plus au cinéma régulièrement, il était plutôt... il vivait sur le souvenir d'un cinéma, du cinéma de sa jeunesse ou d'un cinéma d'autrefois.
Donc assez proche de Boulet finalement dans le...
Assez proche de Boulet, mais je ne connaissais pas vraiment ses goûts. Claude André me semblait ouvert à beaucoup de choses au cinéma, mais c'était pas des dévoreurs de pellicules.
Vous n'avez pas souvenir d'avoir été voir un film avec Claude André?
Non, c'était dans la boutique, il y avait Claude André, il y avait Corneille, et en dehors de ça, c'était terminé.
Est-ce que Corneille, finalement, serait pas une sorte d'ultime définition de l'énigme, du mystère, Mystery Magazine?
C'est une énigme, c'est vrai. On ne peut pas mieux qualifier Roger Corneille que de réservé. C'était quelqu'un de secret, de réservé, qui en même temps était dans une boutique où il recevait des clients, donc il ne pouvait pas être désagréable. Mais il devait avoir ses idées et il les gardait pour lui. Et il nous regardait, il nous écoutait avec bienveillance, avec amusement parfois, parce qu'il devait en entendre des histoires. Il devait en entendre.
Mais ils entendaient quotidiennement, forcément.
Ah oui.
Au moins 5 jours sur 7.
Ça faisait penser à Losfeld aussi, qui n'allait jamais au cinéma, pratiquement. Et on lui racontait des films, et puis il les racontait aux autres comme si c'était lui qui avait vu le film. Je me souviens d'histoire, ça c'était extraordinaire.
Quel souvenir sur le terrain vague, le terrain vague d'abord de la rue.
Alors terrain vague, moi j'ai connu rue
Saint-Séverin.
Non. Au coin de la rue de Assas, c'est la rue du Cherche-Midi. C'était rue du Cherche-Midi.
Rue du Cherche-Midi.
Même presque à l'angle là, de la rue. Alors moi j'ai le souvenir de Losfeld avec les pieds. Il avait un pied qui était défectueux. Il avait un ou deux pieds surallongés sur la table. Et puis il trônait comme ça, il accueillait les gens. Et chacun venait parler de ce qu'il avait vu, de ce qu'il avait lu, etc. Très différent de l'accueil chez Corneille.
L'accueil était plus, comment on pourrait dire,
plus engagé aussi.
Plus engagé.
Oui, oui. Et puis.
Il n'y avait pas un projet Jean-Claude Romer, Michel Caen chez Losfeld qui a chopé quelque chose, non? Il n'y a pas eu non. quelque chose comme ça.
Il devait y avoir un livre sur les
Peut-être
vampires.
Peut-être sur Fantastique, oui, sur les vampires.
Hein. C'est Boulet qui voulait absolument qu'il y ait un livre sur les vampires. Je lui ai dit, mais moi, ça ne m'intéresse pas outre mesure. Mais si, on va l'annoncer, on va l'annoncer. Alors, il a été annoncé, il y a eu une page entière dans Midi Minuit. Jean-Claude Romer.
Il semble que Roger Cornaille n'ait jamais lui-même vraiment franchi les frontières proches pour aller soit chez Valéry Schmitt, soit chez Roger Cornaille, soit chez Losfeld, etc.
Non, il restait.
J'ai l'impression qu'il y a une réciprocité. C'est qu'en fait, les uns et les autres
s'observaient
à distance.
Son magasin,
ouais. Hein. S'observaient à distance.
Et puis quand il quittait son magasin, c'était pas pour aller dans un autre. Ouais. Non, il devait avoir peut-être son jardin secret, Cornaille. Et nous ne voyons que la partie émergée de l'iceberg Cornaille, c'est-à-dire la présence physique derrière un bureau avec un crayon comme ça, faisant oui, oui, c'est tout. Mais c'était très difficile d'avoir
une
conversation.
Non, mais je dis ça parce qu'il y a aussi le procès Clouseau de la classe 1 et Bellours chez Losfeld. Bon, il y a des choses, il y a des passerelles, quoi, si je puis dire. Bon, à un certain moment, pendant un petit laps de temps.
Alors, je reviens sur autre chose aussi. C'est en même temps que j'étais rédacteur en chef, co-rédacteur en chef à Midi Minuit. J'étais donc rédacteur en chef ici et j'étais responsable d'un numéro de Bizarre qui, oh horreur, était publié par Jean-Jacques Pauvert. Oui. Jean-Jacques Pauvert était l'ennemi intime de Losfeld. Vous imaginez que avoir un pied dans chaque tombe, c'était extrêmement délicat de ne pas choquer la susceptibilité de l'un ou de l'autre.
Mais c'était pendant un
puisque c'était Bizarre qui était publié là et Gifouif ensuite chez Losfeld, chez Jean-Jacques Pauvert. C'est Jean-Jacques Pauvert qui publiait Gifouif.
Ouais.
Et en même temps que j'étais là, j'étais le seul à être publié chez les deux. Vous imaginez les acrobaties?
J'ai appris par Dominique Rabourdin hier. Hier, on mettra ou on mettra pas ces anecdotes, on verra plus tard, on triera. Qu'en fait, le piratage d'Histoire d'eau par Losfeld, le piratage d'Emmanuel par Pauvert existait d'un commun accord et pour le compte de l'imprimeur. Je vais pas vous apprendre que l'imprimeur, c'est la première personne qu'il faut payer. Rubis sur l'ongle.
Non, mais à ce propos, je vous signale que la revue Bizarre avait été créée par Losfeld.
Oui,
le numéro 1 a été fait par Losfeld et il y a eu un autre numéro 1 qui a été fait par la Clos chez Jean-Jacques Pauvert.
C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Radio Graphite, graphite.net et la revue Prime Cut. Pour plus d'infos, rendez-vous sur theextasyoffilm.com. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur diverses plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee. avec The Last But Not The Least, le concours de Léo Magnin à la technique. Salut les gens, à la prochaine.